Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
En 1989, un an à peine avant son décès, dans la postface de la dernière édition du Grand Espoir, initialement publiée en 1949, l'économiste et sociologue Jean Fourastier a écrit ces quelques pages synthétiques dans lesquelles il récapitule sa pensée. Il aborde dans ce passage précisément la question de la pauvreté. Extrait. Relisant en 1989 la première édition du Grand Espoir publiée en 1949, je vois bien que ce Grand Espoir s'est aujourd'hui largement réalisé en Occident et qu'il est bien en voie de réalisation dans le monde entier. Le progrès technique a tenu ses promesses et continue de les tenir. Sa place est croissante dans la vie économique et même dans la science économique. Voilà pourquoi le livre est resté actuel. Je n'ai pas à y revenir, mais il m'appartient d'exprimer ici ce que je pense aujourd'hui de l'état actuel des problèmes que pose le monde. En d'autres termes, je dois dire pourquoi je n'écris pas le grand espoir du 21e siècle, pourquoi tout me paraît grandement plus complexe et plus mouvant en 1989 qu'en 1949, et pourquoi l'avenir me paraît grandement imprévisible. J'écrirai d'abord deux idées majeures. La première est que l'évolution économique à elle seule dominait largement la situation de 1950, tandis que les facteurs culturels, scientifiques, biologiques, politiques, moraux, spirituels, etc. sont aujourd'hui tous importants, étroitement imbriqués et chacun impossible à cerner. Le second fait majeur est que l'évolution est de plus en plus rapide. Dès 1950, les choses ont été beaucoup plus vite que je ne le pensais alors. Aujourd'hui, tous les facteurs de la condition humaine, du moins presque tous, subissent ou bénéficient de bons presque instantanés au regard de la durée de la vie individuelle. Et ainsi, les changements sont à la fois plus nombreux, plus profonds, plus rapides. Qui veut penser son temps doit penser à la fois une foule, j'oserais écrire une cohue de faits instables et lourds de conséquences que personne, et moi-même moins ou pas mieux que tout autre, ne parvient à dominer ou à ordonner. Niveau de vie, genre de vie. Je n'ai jamais cru que la société puisse, à portée de siècle, donner à chacun selon ses besoins. Ce fut la formule du marxisme classique jusque vers 1975. Je croyais pourtant que la forte augmentation du pouvoir d'achat, des salaires, qui était prévisible en 1950 et s'est réalisée depuis lors, serait de nature à apaiser quelque peu les luttes sociales et les revendications d'égalité. En fait, il n'en a rien été. Nous avons assisté et continuons d'assister aux revendications du « toujours plus » décrit par François de Closet, qui, par exemple, transforme les chambres des jeunes enfants en entrepôts de jouets. Il est clair que la gamme rêve, désir, besoin des hommes est indéfinie et que pour en rompre la chaîne, il faut des tabous absolus. Or, c'est au contraire un appel et un encouragement au dépassement que distillent la publicité et la société de consommation, d'où les insatisfactions toujours renaissantes. Mais les faits ont pris un tour plus inattendu avec la persistance même dans les nations les plus riches de poches de pauvreté et de ces hommes que l'on a appelés les nouveaux pauvres. Certes, il faut être prudent sur la définition de la pauvreté car, à moins d'une égalité absolue des revenus, il y aura toujours des gens au-dessous de la moyenne nationale et même au-dessous de la moitié ou du tiers de cette moyenne. Cependant, il est clair que la pauvreté ne peut être mesurée dans la France d'aujourd'hui selon les mêmes critères qu'en 1830 ou en 1900. Quel que soit le nombre de ces pauvres, une fraction non négligeable de la population ne suit pas le train général. Cette fraction résiste aux traitements sociaux, aux revenus minimaux d'insertion. C'est un fait grave, à la fois économique, social, culturel. Il faut espérer que les expériences acquises au cours de ces années 80 seront poursuivies dans l'avenir jusqu'à une solution de dignité et de fraternité. Ce problème, quoique distinct du chômage, lui est lié, et nous en reparlerons plus loin. Si dans l'ensemble, le niveau de vie d'une nation s'élève, l'accroissement doit profiter à tous. L'essentiel est donc l'augmentation du revenu national par tête. Mais je ne suis pas sûr que tous les citoyens et même tous les économistes aient encore bien compris que ce niveau national de vie dépend non du revenu même, mais du quotient revenu-prix, c'est-à-dire de la productivité du travail de production, des biens et des services. Malgré les pauvretés dont nous avons parlé, l'inégalité des salaires et plus généralement des revenus individuels n'a cessé de se réduire depuis le XVIIIe siècle, ainsi que nous l'avons montré dans « Machinisme et bien-être » et avec Béatrice Basile dans ce livre « Le jardin du voisin ». De manière générale, les pays du tiers-monde sont une image des inégalités de notre passé. Là, il n'est pas question de salaire minimum ni de revenu minimum d'insertion. C'est la famine, ou au moins la disette, qui limite la croissance de la population.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.